Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin dans le grand entretien du 7-9 la garde des Sceaux, ministre de la Justice. Intervenez au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et l'application France Inter. Nicole Belloubet, merci d'être là et bonjour.
Bonjour.
C'est une exclusivité France Inter et Le Monde, la publication d'un appel des juges des enfants de Bobigny. Sophie Parmentier en parlait en ouverture du journal de 8h. C'est un texte sur le manque cruel, le manque chronique de moyens auxquels ils sont confrontés pour faire leur travail, c'est-à-dire s'occuper des enfants, les protéger, et je cite ce texte, les protéger parfois très jeunes des violences physiques, sexuelles, psychologiques, du délaissement parental, des négligences dans les soins et l'éducation. Nous sommes devenus les juges de mesures fictives. Notre alerte est un appel au secours, concluent les juges. Un appel au secours, Nicole Belloubet, est-ce que vous l'entendez et que leur répondez-vous ?
Bien sûr que je l'entends, puisque c'est une politique qui est essentielle pour l'avenir de notre société, que celle qui tourne autour de la protection des enfants. Mais je voudrais ici redire clairement les choses. La politique qui s'occupe de la protection des enfants, elle comprend deux aspects. La protection de l'enfant en danger, qui est une politique, on va dire, partenariale entre les départements et l'État. Et puis, la sanction des mineurs délinquants, qui, elle, relève de la justice, enfin de l'État et de la justice. Ce sur quoi mettent l'accent essentiellement les juges des enfants, c'est sur le premier aspect, c'est-à-dire la protection de l'enfance en danger. Et donc là, il est vrai que nous sommes sur une compétence qui est sur... Je ne me défausse pas en
oui,
disant
c'est
ça.
Oui, c'est ça, c'est qu'on a l'impression.
Non, je ne me défausse pas. J'explique les choses parce qu'il faut dire ce qui est. C'est une compétence qui appartient au département, qui va évaluer les enfants qui sont en danger. S'il y a un grave danger, ils saisissent le juge, qui rend alors une mesure qui doit être exécutée par le département. Donc, il y a partenariat, mais c'est surtout la responsabilité du département. Et en disant cela, je le dis pour clarifier les choses, je ne le dis pas pour me défausser,
d'accord,
ni pour défausser le rôle de l'État.
Vous dites que c'est un partenariat entre le département et l'État, la ministre de la Justice que vous êtes, quand elle lit le fait que les juges disent, c'est très clair et très concret, ils disent, dans beaucoup de cas, on est obligé de séparer les enfants des familles, parce que le lieu de violence se passe dans la famille.
Oui.
On prend la décision de les séparer pendant un an,
oui,
et un an après, on revient pour faire le bilan.
Oui.
Et ce que disent les juges, c'est qu'un an après, ils reviennent pour faire le bilan et que la décision n'a même pas été mise en place.
Mais oui, mais
donc
c'est
les
bien
enfants
ce que
n'ont
je
même
vous dis,
pas
Madame
été
Salamé,
séparés.
C'est grave, c'est très grave, c'est bien ce que je vous dis, mais c'est une politique qui appartient au département que d'exécuter la mise en œuvre de ces décisions de justice.
Donc vous n'avez rien à voir.
Mais non, je n'ai pas dit cela, monsieur.
Alors quoi ?
Non, je n'ai pas dit cela, monsieur de Morand, mais quand on présente quelque chose, on le dit clairement. Moi, je vous dis ceci. Je ne nie pas la responsabilité de l'État, mais je dis que la mise en œuvre des décisions de nature civile, comme celle dont vous me parlez, qui concernent les enfants, cela appartient au département. C'est une autre question que de savoir comment est-ce que l'État peut appuyer des départements comme ceux de la Seine-Saint-Denis, qui ont à faire face, parce qu'il faut le reconnaître, à une arrivée massive, soit de mineurs non accompagnés, c'est-à-dire des mineurs étrangers, soit qui ont à faire face à réellement des situations humaines, sociales, qui sont difficiles, puisque nous connaissons ce qu'est la Seine-Saint-Denis, département très contrasté, à la fois de très grand essor économique, mais également de situations sociales difficiles. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que le ministère de la Justice joue un rôle, bien sûr. Il faut des juges, il faut des greffiers, je ne le nie pas. Mais la mise en exécution des décisions qui sont rendues par le juge, cela relève du département.
Votre budget, le budget de la justice,
oui,
va augmenter.
Oui.
C'est un des rares ministères qui va augmenter.
Absolument.
Quasiment plus de 20% sur tout le quinquennat.
Oui.
Est-ce qu'il y a de l'argent ? Est-ce qu'il y a des postes qui vont être créés spécifiquement dans ce département-là, qui est le plus pauvre de France, on le rappelle, et qui est qui fait particulièrement face à des problèmes, et notamment tribunal des enfants de Bobigny. Est-ce qu'il y a spécifiquement, est-ce que vous avez des annonces à faire de, je ne sais pas, un certain nombre de postes créés dans ce tribunal-là ?
Alors, d'abord, je ne fais pas d'annonce à chaque fois que je me rends sur une chaîne de radio, mais ensuite je vous répondrai avec deux éléments. Pour ce qui s'attache à la justice, oui, il faut créer des emplois dans le tribunal de Bobigny. Et c'est ce que j'ai fait. Il y a eu 8 postes de magistrats supplémentaires par rapport à 2016, et il y a eu une affectation de 19 greffiers supplémentaires. Après, c'est au président du tribunal de savoir où il les affecte dans son tribunal. Je ne dis pas en ayant fait cela que les choses sont réglées. Je dis simplement que nous avons agi et que nous continuerons à agir parce que, comme vous le dites, le budget de la justice est un budget en hausse. Par ailleurs, sur la question de l'enfance en danger, avec Agnès Buzyn, nous sommes en train d'élaborer une stratégie nationale pour l'enfance et évidemment la situation de la Seine-Saint-Denis sera prise en compte. Et enfin, j'ajouterai un troisième élément, c'est qu'il me semble qu'avec Jacqueline Gourault, ministre en charge des territoires, nous pouvons avoir un accent et un focus particulier sur la question de la Seine-Saint-Denis. Donc vous voyez, je ne me défausse pas. Je sais que cette situation est vraiment délicate et qu'il faut absolument que nous la réglions. Je dis simplement que pour ma part, j'ai fait un pas. Je ne prétends pas avoir tout réglé. C'est en concertation avec mes autres collègues et le département que nous pourrons avancer.
La vidéo d'un élève braquant sa professeure avec une arme factice a suscité, vous le savez, Nicole Belloubet, une vive indignation. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, n'exclut pas, je cite ses propos, la présence physique des forces de l'ordre dans les établissements à des moments de tension particulière dans la journée et évidemment avec l'accord du chef d'établissement. Redites-nous si pour vous c'est une bonne idée.
Alors d'abord, moi je dis que sur la question que vous évoquez de Créteil, la justice a réagi rapidement. C'est pas tout à fait votre question, mais je tiens à le dire.
Oui.
Parce que au fond, et c'est un petit peu le même sujet que celui qu'abordait Léa Salamé, quand on a un problème avec un adolescent ou avec un enfant, au fond c'est pas tellement la modification du texte de loi qui importe, c'est la réaction rapide.
Oui.
Voilà. Et donc sur ce jeune, on a pris une mesure d'éloignement. D'ailleurs, les deux autres qui avaient filmé, etc., sont aujourd'hui mis en examen, ils sont sous contrôle judiciaire. Donc ce qui importe, c'est la rapidité de la réaction. La présence,
alors, si on regarde, voilà,
la présence des forces de l'ordre, si vous voulez, moi je pense qu'elle n'est pas à exclure par principe. Je dis simplement qu'il faut évidemment agir sur demande du chef d'établissement. C'est lui qui sait à quel moment il a besoin d'un appui, soit pour être à l'extérieur de l'établissement, pour assurer la sécurisation de la zone, soit de temps en temps pour être présent à l'intérieur. Ce que j'ai dit, et avec Christophe Castaner, nous sommes exactement sur la même longueur d'onde, je crois.
Vous ne l'étiez pas totalement, si je ne m'abuse, parce qu'on vous a posé la question il y a 10 jours et vous avez répondu de manière assez claire en disant non, l'école est un lieu de savoir,
mais
ce n'est pas une raison de redressement.
Je le réaffirme.
Manière de dire que vous étiez défavorable à la présence de policiers à l'intérieur de l'école.
L'école est d'abord un lieu de savoir. En tant que de besoin, il faut bien entendu pouvoir faire appel aux forces de l'ordre. C'est d'ailleurs le cas depuis longtemps. Et ce que Castaner a dit finalement, c'est qu'il voulait une grande réactivité en tant que de besoin. Voilà, moi je ne suis pas favorable à la présence permanente des policiers dans l'établissement. Mais personne ne l'est, ni Jean-Michel Blanquer, ni Castaner. Nous sommes, je crois, d'accord là-dessus.
Les syndicats enseignants disent que la mesure est à côté de la plaque, notamment au moment où plus de 2000 postes de professeurs sont supprimés. Même les syndicats de policiers, Alliance par exemple, disent « nous ne sommes pas des pions dans certains établissements, ça pourrait être totalement contre-productif. » Est-ce que le ministre de l'Intérieur n'est pas allé trop vite? Est-ce que ce n'est pas une fausse bonne idée, en tout cas, d'avoir réagi comme ça et mis ça sur la table?
Écoutez, je crois que nous sommes d'accord maintenant sur le fait qu'il y a présence de forces de l'ordre en tant que de besoin et sur demande du chef d'État.
Ça veut dire on appelle la police s'il y a un problème. C'est ça la mesure
comme
ou pas?
Comme toujours,
d'accord. Donc c'est rien d'autre en fait.
Ils sont d'accord maintenant, oui, Nicolas. Je suis pas sûre qu'ils étaient d'accord il y a une semaine. Et le sourire de Mme Belloubet en dit long. Xavier Bertrand dans le JDD ne prend pas de gants hier. Ne tournons pas autour du pot. Il faut plus de places de prison, plus de moyens pour la police et pour la justice et plus de sévérité. Le président de la République est-il sur ces sujets, les sujets de sécurité, les sujets de justice, dans le déni? Comme le dit Xavier Bertrand.
Ben, je trouve que le président Bertrand, là, ne me semble pas avoir pris en compte l'effort que nous comptons faire. Le président de la République a dit 15 000 places de prison supplémentaires. Elles y seront. Je l'ai dit, je le redis à votre antenne, nous livrerons 7 000 places supplémentaires par rapport à celles que nous avons trouvées en 2022, enfin certaines sont en cours de livraison d'ailleurs, et nous commencerons 8 000 places de prison d'ici 2022. Commencer, ça veut dire soit acheter les terrains, soit commencer la construction. C'est long de faire des prisons. Donc voilà. Donc nous ferons ça. Et nous ne sommes pas dans le déni, je parle pour la justice, puisque le budget est augmenté, très bien. Et également, nous allons essayer de construire une politique globale, c'est-à-dire à la fois une politique de renouvellement des peines, pour avoir des peines qui soient réellement adaptées à la nature de l'infraction et à la personne qui est condamnée, et également une politique de différenciation dans les établissements pénitentiaires. Je pense que ce n'est pas la peine d'avoir des établissements très hautement sécurisés pour l'ensemble des condamnés. Il faut en revanche des établissements de gradation différenciée où les activités soient de nature différente suivant les personnes détenues. Je ne crois pas qu'il y ait d'angélisme. En tout cas, ce n'est pas ma position, ce n'est pas celle du président de la République. Nous ne faisons pas d'angélisme en matière de sécurité.
D'après l'opinion qui en fait sa une, le quotidien L'Opinion qui en fait sa une, Nicole Belloubet, vous êtes en train de réécrire une partie de la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État. Qu'est-ce qui va changer ?
Écoutez, moi je ne suis pas personnellement en train de réécrire cette loi de 1905. Le président de la République y réfléchit, non pas à la réécriture de la loi de 1905,
mais à
réellement la nécessité de redonner à l'islam, vous le savez, un rôle qui soit particulier. Il ne s'agit pas de réécrire la loi de 1905.
Mais
elle a été tant de fois.
Est-ce qu'elle va être à nouveau amendée ?
Il est possible qu'elle le soit à nouveau.
C'est quoi l'urgence dans les réformes et dans les différents amendements qui pourraient être apportés ?
Alors, écoutez-moi, l'urgence, là, pour moi, ce qui est important, c'est réellement que nous puissions ensemble travailler sur un islam de France qui apporte de l'apaisement par rapport aux questions liées à cette religion.
Ça veut dire quoi concrètement ? Sur le mode de financement par exemple ?
Sur la formation des imams, etc. Il y a plusieurs champs qui peuvent être travaillés.
L'idée d'une taxe halal pour financer la construction de mosquées par exemple, qui avait été suggérée dans le rapport de l'Institut Montaigne, est-ce que vous y êtes favorable ?
Je n'y suis pas certaine.
Pourquoi ?
Non, je ne suis pas certaine que cela soit mis en œuvre aujourd'hui.
À 9h ce matin, un certain nombre d'avocats, parmi lesquels Maître Temim, Spinner, Ader, vont donner une conférence de presse sur la réforme de la justice que vous avez engagée. Ils dénoncent une justice illisible, je cite le communiqué qui a été le leur, illisible, déshumanisée, privatisée, la mise à distance des justiciables, l'accroissement des inégalités de traitement, le recul de la prévention, de l'accès au droit du service public de la justice. La critique est très très rude, j'arrête là la citation. Elle ne vient pas d'un parti politique, mais d'acteurs au cœur du système judiciaire. Elle pose cette attaque des questions de principe. Est-ce que vous entendez la crainte que la justice soit mal rendue ?
Alors d'abord, je trouve que le moins qu'on puisse dire, c'est que les avocats dont vous faites mention ne font pas dans la demi-mesure.
Le texte est très rude, oui.
Je ne suis pas tout à fait sûre que l'ensemble de leurs propos soit réellement exact. Et franchement, mon propos à moi est fait, vraiment, je fais mise beaucoup.
C'est-à-dire, vous pensez qu'ils ont tort sur toute la ligne de faire une telle liste ?
D'abord, vous ne me connaissez pas, mais c'est pas vraiment mon tempérament de penser que les uns ont raison et que les autres ont tort. En revanche, je pense qu'ils ont un regard sur la loi, qui est un regard volontairement tranchant pour essayer de susciter les craintes,
les
critiques et peut-être l'intérêt des médias. Non, je pense que la loi que nous avons voulu porter, c'est une loi qui se veut pragmatique, qui se veut efficace, mais dont l'objet central, alors ce sont des mots, c'est le justiciable. Et moi j'ai quatre mots. Je veux une justice mieux financée. C'est le budget, 25% en plus. Je veux une justice qui soit moins complexe. Et là, nous prenons un certain nombre de mesures. Il n'y aura plus qu'une requête introductive d'instance au civil. Nous maintiendrons la proximité partout. Il y aura des tribunaux de proximité. Rien ne changera de ce point de vue-là. Donc moins complexe, plus rapide. Nous avons pris un certain nombre de mesures. Je pense notamment sur le divorce qui permettra de rendre les décisions beaucoup plus rapidement. Et ça affecte vraiment les gens. Quand on va diviser le divorce contentieux par deux dans la durée, en protégeant évidemment, en permettant qu'il y ait des mesures provisoires protectrices des enfants, il me semble que c'est un appui. Nous allons également développer la numérisation, non pas pour éloigner, comme ils le disent, franchement, ça, qui peut croire cela ? Qui peut croire ça ? Il ne s'agit pas d'éloigner le justiciable de son juge, mais de permettre aux magistrats et aux greffiers de travailler plus efficacement, c'est tout. Et évidemment, il y aura toujours un accueil physique pour recevoir les gens.
Madame le ministre, je ne vais pas citer les ténors du barreau, puisque Nicolas vient de le faire, je vais citer le bâtonnier de Paris, qui est très dur également. Ah, mais je vous vois.
Mais je sais, je connais parfaitement les propos de Marie-Aimée Perron.
D'accord, ce projet de texte ne va pas permettre d'avoir une justice plus rapide, plus moderne. Il va au contraire complexifier les procédures. Nous demandons une justice plus humaine.
Alors, évidemment, ce sont des mots, une justice plus humaine, moi aussi, je souhaite une justice plus humaine et je n'ai pas l'impression que je vais vers une déshumanisation. Je voudrais savoir ce que Marie-Aimée Perron entend par justice plus humaine. Ce que j'ai souhaité faire, c'est en matière de procédure civile, je viens de le dire, de rendre les choses plus rapides, en matière de procédure pénale, de recentrer chacun des acteurs sur le cœur de son métier. Les enquêteurs, c'est un point qui a été travaillé avec le ministère de l'Intérieur, pourront avoir toujours sous le contrôle du juge des outils plus efficaces et le magistrat pourra également...
Pourquoi ils sont pas convaincus? Ils sont de mauvaise foi, tous ces ténors, Témime, Spinner, le bâtonnier?
Non, je
ils si en vous... veulent toujours plus? Ils exagèrent?
D'abord, je voudrais dire que les avocats sont des acteurs essentiels pour le monde judiciaire. Essentiel. Pour autant, ils essaient là de jouer la partition qui est la leur. Je les respecte en tant qu'acteurs essentiels de la justice. Je ne suis pas convaincue par l'ensemble des arguments qu'ils avancent, qui sont vraiment complètement excessifs et faux parfois. Mais il faudrait du temps pour prendre chacun des arguments et pouvoir les expliquer.
Beaucoup de questions au standard de France Inter également. Bonjour Aurélie.
Bonjour,
bienvenue.
Bonjour Madame Belloubet,
bonjour
Madame Ministre, excusez-moi. ma question va être simple et concise. À quand l'indépendance des magistrats du parquet?
Merci pour cette question rapide et claire. Nicole Belloubet vous répond.
L'indépendance des magistrats du parquet, elle est, je vais le réexpliquer, elle est très très forte. Le pouvoir exécutif continue à nommer les magistrats du parquet parce que nous considérons que l'article 20 de la Constitution, qui rend le gouvernement responsable devant le Parlement, lui donne également la possibilité d'édicter la politique pénale qui sera ensuite mise en œuvre par les magistrats du parquet. La politique pénale, c'est dire que nous allons intensifier notre action en Seine-Saint-Denis, par exemple. Mais pour autant, une fois que ces règles générales ont été précisées, il n'y a aucune instruction individuelle qui est donnée au procureur. Aucune. Et il faut en finir avec cette ère du soupçon. François Molins, procureur de Paris, dans des interviews récentes, l'a clairement dit. Nous ne donnons aucune instruction individuelle.
Alors pourquoi ne pas aller
instruction individuelle. Et de plus, les magistrats sont évidemment libres de l'opportunité des poursuites. C'est eux qui choisissent de poursuivre ou pas. Et enfin, dernier point, notre ambition est bien de réviser la Constitution pour accroître l'indépendance des magistrats du parquet les nommant sur avis conforme du Conseil de
magistrature. Couper le lien totalement, il n'en est pas question. C'est la clarté de la question d'Aurélie.
C'est la singularité du parquet à la française. Nous donnons des directives générales. Ils sont totalement indépendants sur les affaires individuelles.
Margot, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes policière, je crois, Margot.
Oui, je suis policière en Seine-Saint-Denis.
On vous écoute.
Bonjour Madame la Ministre,
bonjour, madame.
Je souhaiterais vous poser une question concernant la proposition de loi qui a été soumise au Sénat concernant la présence de l'avocat au cours des perquisitions, connaître votre avis, sachant que j'ai cru comprendre que la politique du gouvernement s'orientait vers une simplification de la procédure pénale, et pour moi cette mesure, même si elle permettrait l'exercice d'un droit, alourdirait encore énormément le travail des policiers. Et en exemple concret, si vous vous retrouvez dans une cité de Seine-Saint-Denis dans laquelle vous êtes allé à 6h du matin pour garantir votre sécurité et que vous devez attendre l'avocat qui a 2 heures pour venir, vous pouvez très facilement vous retrouver en difficulté dans la cité avec les dealers qui se réveillent et qui vous prennent à partie.
Voilà. Merci Margot pour cette question. Nicole Belloubet vous répond.
Bien sûr, sur ce sujet-là, ma position a été claire au Sénat. Je ne suis pas favorable à la présence de l'avocat en perquisition. Je considère, ça n'est exigé par aucun texte européen, et je considère que les mesures de perquisition sont autorisées par le juge de la liberté et de la détention. Elles font l'objet d'un contrôle a posteriori. Elles se déroulent toujours sur demande du procureur, qui est donc un magistrat, je le rappelle tout de même. Et donc, si vous voulez, il me semble que cela n'apporterait pas de garantie supplémentaire et cela pourrait dans bien des cas complexifier la situation. Je pense aussi à ce qui s'est passé lorsque Redouane Faïd a été arrêté. Il y a eu une perquisition de son appartement tout de suite après, à 4h du matin. Il est certain que s'il avait fallu attendre un avocat, ça aurait complexifié les choses. Et je ne vois pas ce que cela apporterait comme garantie supplémentaire puisque bien entendu, lorsque les documents seront exploités, alors là, l'avocat intervient. Mais au moment même de la perquisition, je ne pense pas que ce serait un atout supplémentaire.
Allez, encore une question au standard. Bonjour Angélique.
Bonjour à tous.
Bienvenue.
Bonjour Madame la Ministre.
Bonjour.
J'ai une question relative au Génépi. Le Génépi est une association étudiante qui intervient en détention depuis 42 ans, qui milite pour le droit des personnes détenues et pour le décloisonnement des institutions carcérales. Et en septembre dernier, la convention n'a pas été renouvelée sans aucune négociation, après 42 ans encore une fois de service, ce qui met grandement l'association en difficulté. Et du coup, je voudrais savoir comment, pourquoi exclure une association encore une fois de plus, exclure une association de l'intérieur de la prison alors qu'elle milite pour les droits des détenus. Est-ce que ça faisait partie du plan prison? Est-ce que c'est logique dans une logique de politique de la réinsertion?
Bien compris, Angélique. Merci, Nicole Belloubet vous répond. Il y a d'autres questions exactement alors, sur le même thème, sur l'application d'un père.
J'ai, si vous voulez, pour moi, le Génépi, en tant qu'étudiante et puis même ultérieurement, c'est une association qui avait beaucoup de sens et qui jouait un rôle extrêmement important dans les prisons. Il s'est passé la chose suivante, c'est qu'il me semble que, alors même que le Génépi avait pour mission de faire un nombre important d'heures d'enseignement en détention, ce nombre d'heures a considérablement diminué. Il est passé de 12 000 à 5 000 heures en quelques années, en 2 ou 3 ans. Et par ailleurs, le Génépi développait des thèses qui sont très hostiles à la politique publique que nous conduisons. Autrement dit, des thèses qui aller même jusqu'à lutter contre la mise en place de régimes de confiance que nous avons élaborés, mis en place dans un certain nombre de prisons, des régimes de confiance qui permettent aux détenus d'être plus autonomes, de circuler librement dans une zone de l'établissement en détention, d'accomplir un certain nombre d'activités, etc. Donc ce n'était plus une politique de partenariat sur les ambitions que nous avions, mais une politique au contraire d'opposition quasiment frontale et permanente. Donc j'ai pris une décision qui est de supprimer la subvention, mais bien entendu, j'autorise toujours l'accès du Génépi aux établissements pénitentiaires s'ils le veulent et s'ils le souhaitent. Et enfin, dernière chose, le budget 2019 de la justice accentue l'aide apportée aux associations. Et il y a de très nombreuses associations qui viennent nous apporter leur appui pour les activités conduites en détention. Je pense à l'APCARS et à d'autres encore, et nous continuons évidemment à les financer, et même mieux encore.
Madame la ministre, Benjamin Griveaux a attaqué Laurent Wauquiez en le qualifiant, je cite, de candidat des gars qui fument des clopes et roulent au diesel. Réaction de François Bayrou hier à notre micro sur France Inter. Cette phrase m'a fait mal d'une certaine manière, elle m'a même fait honte. Et vous ?
Ce n'est pas ma manière de parler. Ce n'est pas ma manière de parler. Chacun s'exprime comme il l'entend. Benjamin Griveaux a à ce moment-là utilisé ces mots-là. Ce n'est pas ma manière de parler.
Les questions sur Twitter de Clémentine Autain, députée La France Insoumise. Question donc pour vous, Nicole Belloubet. Le rapport parlementaire sur le 93 paru avant l'été a sonné l'alarme. L'État déploie moins de moyens par rapport à d'autres départements, notamment sur la justice. C'est un retard structurel. À quand un plan de rattrapage, comme l'exigent les élus du 93 au nom de l'égalité républicaine?
Je répondrai à Madame la députée Autain que pour ce qui s'attache à la justice, je prends vraiment mes responsabilités. Je le dis ici clairement, les moyens ont déjà été accrus et c'est évidemment une politique que je vais continuer à conduire dans le cadre
du budget. C'est un rattrapage, hein, c'est la question, c'est sur le rattrapage, alors, c'est-à-dire plus
vous
ambitieux
savez,
encore.
Oui, il faut. Je compte mener une politique à la fois sur le plan humain, mais aussi sur le plan immobilier, puisque à Bobigny, il y a un seul tribunal pour la Seine-Saint-Denis. Et donc, j'ai là mis 35 millions dans les études immobilières pour voir comment nous pouvions améliorer la situation. Donc oui, je compte vraiment faire un effort, mais cela rentre dans le cadre d'une perspective plus globale. Et je répondrai également à Madame Autain que cette politique-là s'inscrit dans un rapport plus global avec les départements et notamment dans la prise en charge des mineurs non accompagnés sur lequel il y a un accord entre les départements et l'État pour que l'État prenne mieux en charge et finance mieux l'évaluation de ces mineurs non accompagnés.
Léa,
les images d'agressions homophobes se multiplient sur les réseaux sociaux et elles sont terribles. Est-ce qu'il y a, selon vous, une recrudescence des agressions homophobes ou est-ce qu'elles sont juste plus médiatisées, plus visibles aujourd'hui ?
Je pense qu'il y a une tendance à vraiment un accroissement de ce type de ce type d'agression, et c'est la raison pour laquelle je me suis rendue avec Marlène Schiappa et Christophe Castaner au siège d'une des grandes associations luttant contre les propos homophobes il y a 2 ou 3 jours, et que nous allons ensemble mettre en place un plan de travail. Pour ce qui me concerne, j'ai beaucoup d'éléments à mettre et à déployer. Je pense notamment à la plainte en ligne qui est prévue dans ma loi, qui peut permettre de porter plainte plus rapidement et donc de garder des preuves plus rapidement. Je pense également, car c'est une propagation importante, au travail que nous avons à faire pour lutter contre les propos antisémites, mais aussi homophobes sur Internet, etc. Donc il y a toute une série d'actions que nous pouvons conduire qui sera plus efficace.
Merci Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice, d'avoir été à notre micro ce matin. Il est 8h46 déjà.